enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Aujourd'hui, j'ai un message pour vous aider comment construire une vie de foi, une puissante vie de foi. Et on va donc parler de la foi, on va en parler un peu plus profondément. On va pas revenir aux principes élémentaires de la foi. Mais mon objectif, c'est de vous montrer un certain nombre de choses que vous devez mettre dans votre vie pour que justement vous puissiez vous construire une grosse plateforme de foi. Dans Hébreux 11, verset 6, Dieu nous met en face de nos responsabilités concernant la foi. Et nous devons vraiment comprendre ce que c'est que notre responsabilité, la responsabilité de Dieu et notre responsabilité. Parce que beaucoup de chrétiens n'acceptent pas de prendre leurs responsabilités. Ce qui fait que nous avons beaucoup de gens qui font tout et n'importe quoi. Et qui ne sont pas des gens qui vivent des choses profondes avec Dieu. Vous savez, l'euphorie du premier amour avec Jésus, ça passe. C'est comme dans une relation. On peut être très content d'avoir rencontré la bonne personne. Ça, c'est bien pour le début. Mais après, il faut construire une relation. Construire une relation d'amitié. Construire une relation d'amour. Et ça, ça se construit. Ça ne vient pas tout seul. Ça ne vient pas au premier contact. Ça vient au fil des mois, des années. Avec les bonnes choses qu'on peut vivre et les mauvaises choses. Et avec Dieu, c'est strictement pareil. Rappelez-vous que nous sommes dans une relation avec le Seigneur. Dans Hébreux 11:6, il est dit, « Or sans la foi, il est impossible de lui plaire, nous connaissons bien ce verset, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ou qu'il rémunère ceux qui le cherchent. » Vous avez très largement compris que ce verset nous met en face de nos responsabilités. Ce verset nous met en face de nos responsabilités et en fait nous montre que Dieu, la responsabilité de Dieu, c'est quoi? La responsabilité de Dieu, c'est de répondre à notre prière. Mais la responsabilité, notre responsabilité, c'est de développer une vie de foi. C'est d'amener vraiment notre foi à grandir. Ça, ça va être notre responsabilité. Et ce matin, je vais vous montrer un certain nombre de piliers qui vous permettront de grandir très largement dans la foi. Et si vous pratiquez ces piliers, franchement, vous allez avoir une vie beaucoup plus profonde avec le Seigneur. Rappelez-vous que la foi va vous permettre d'avoir une confiance en Dieu par rapport à ce qu'il dit dans sa parole ou ce qu'il vous a déjà dit personnellement ou vous a déjà parlé. Parce que quand on comprend que la responsabilité est sur nous, qu'on a écarté un peu les histoires de désillusion où j'ai juste à prier et le Seigneur va faire tout le reste, quoi que je dise, quoi que je fasse, de toute façon j'ai prié Dieu, donc Dieu va m'exaucer. Il suffit qu'il y ait un serviteur de Dieu qui prie, alors tout va s'arranger. Quand on a fini quand on a arrêté de se déresponsabiliser, alors on se pose la question, d'accord, bon, je sais que c'est ma responsabilité, c'est la foi. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que je puisse grandir dans la foi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que j'aille plus haut? Comment est-ce que je peux être sûr d'avoir une foi suffisamment puissante pour que, quelles que soient mes situations, quelles que soient mes mauvaises circonstances, quels que soient les plans peut-être des hommes contre moi, quels que soient les coups que Satan veut me faire, je puisse arriver à être dans une position où je domine? Comment je vais arriver à abattre ces forteresses? Eh bien, il y a des principes pour grandir dans la foi, pour vraiment être puissamment stable dans la foi. Ne pas rester simplement en se disant, bon, bah, je vais essayer de voir si Dieu va me répondre. Alors comprenez dans Romains 12, verset 2, qu'au travers de ce verset, la Bible va nous dire que Dieu a départi une mesure de foi. Une mesure de foi à chacun d'entre nous. Une mesure de foi à chacun d'entre nous. Nous allons lire Romains 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir des prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable ou assez sensé pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. Donc la mesure de foi que Dieu lui a départie. Romains 12, verset
3.
Ici, la Bible nous montre que à chacun d'entre nous, Dieu a départi une mesure de foi. Chacun dit une mesure de foi.
Une mesure de foi.
Une mesure de foi.
Une mesure de foi.
C'est-à-dire, il y a quelque chose que Dieu t'a donné à ta nouvelle naissance, qui est une certaine mesure de foi. Et cette mesure de foi, tu dois la développer. Ta responsabilité, ça va être de développer ta foi. Dieu a mis une semence en toi. Et cette semence, soit tu peux la nourrir, soit tu peux la développer aussi, ou soit au contraire tu peux l'étouffer, tu peux l'anesthésier. Tout va dépendre comment tu vas te comporter par rapport à ta vie de foi. Donc il va falloir que tu découvres un certain nombre de choses, des principes pour nourrir cette foi, pour que cette foi devienne de plus en plus forte, de plus en plus puissante, pour te permettre de croire beaucoup plus, donc de voir l'action divine dans ta vie d'une façon, je dirais, avec une mesure extraordinaire. Si tu ne fais pas ça, ce qui va se produire, c'est que tu vas rapidement devenir un chrétien frustré. Comme beaucoup de chrétiens qu'on voit, qui traînent d'église en église, qui sont complètement déstabilisés, qui comprennent pas bien ce qui se passe dans leur vie, qui prient mais qui sont frustrés parce que je dis, mais j'ai prié, je comprends pas. Je pensais que Dieu allait agir dans ça, mais apparemment il y a rien qui s'est passé. En fait, ils vivent une vie frustrée. Ils ne voient pas Dieu agir puissamment dans leur vie. Ils ne se stabilisent pas en Christ. Il suffit qu'il y ait des gens qui viennent de droite et de gauche qui commencent à les troubler. Ils sont troublés. En résumé, ils restent bébés spirituels. Et c'est vrai qu'au début, on est de nouveau, on est un bébé spirituel. Mais nous ne sommes pas censés rester des bébés spirituels. Nous sommes censés grandir. Et cette croissance, en grande partie, se fait avec notre foi. Notre foi qui grandit. Donc le premier principe que vous allez utiliser si vous voulez grandir dans la foi, c'est qu'il va falloir vous entourer d'une atmosphère de foi. Il va falloir que vous compreniez certains principes pour vous entourer avec une atmosphère de foi dans votre vie, pour que justement vous puissiez commencer à comprendre, à vivre dans cette ambiance de foi. Parce que c'est étonnant, mais on voit beaucoup de chrétiens qui se nourrissent de tellement de choses du monde en général que finalement ils anesthésient eux-mêmes leur foi. Ils prient, ils sont braves, ils sont, je dirais, apparemment sincères. Ils fréquentent l'église une fois par semaine, mais ils se nourrissent tellement mal que finalement leurs circonstances ne changent pas. Leur vie ne change pas ou très peu. Dieu ne t'appelle pas à avoir une vie qui change juste un petit peu. Dieu t'appelle à avoir une vie révolutionnée. Complètement transformée par la puissance de Dieu. Alors ne parlons pas de certains chrétiens qui vont dans des églises où on prêche l'incrédulité. Où on prêche toutes sortes d'échecs. Donc des chrétiens qui sont soumis à des enseignements de pauvreté. De fausse humilité. On met des joues sur leur dos. Finalement, on les enchaîne. On leur dit qu'un chrétien, finalement, c'est quelqu'un qui doit attendre le ciel et que dans cette vie, il n'ira pas loin, il ne pourra jamais avoir une vie heureuse. Alors évidemment, quand vous avez des chrétiens qui sont constamment nourris comme ça, dans des églises comme ça, c'est clair que vous les voyez, ils sont à moitié morts à chaque fois que vous les rencontrez. Ils vont jamais bien. Il
n'y
a jamais, je dirais, les choses dans leur vie, c'est toujours une catastrophe. Il suffit qu'ils rencontrent des circonstances difficiles et alors franchement, ça ne va pas du tout. Et pendant 10 ans, ils restent les mêmes. Et vous les rencontrez, sur leur visage, c'est marqué. Il y a comme un voile, je dirais, une mauvaise onction. Ils
ne
sont pas heureux, ces gens-là. Ils
ne
sont pas épanouis. Ça ne va pas. Et franchement, à chaque fois que vous les rencontrez, les premières paroles, vous savez déjà ce qu'ils vont vous dire. Vous savez, si on passe tout notre temps dans de mauvais enseignements, c'est pas étonnant. Si vous mangez mal, si vous mangez dans des restos qui sont toujours où il y a de la nourriture qui a varié, vous allez vous empoisonner spirituellement. Donc évidemment, il faut manger la bonne parole. La parole qui vous tire vers le haut. La parole qui vous remet en question aussi. La parole qui vous nourrit, qui vous encourage, qui vous fortifie. Je vous rappelle qu'une église locale doit créer l'atmosphère au travers de laquelle une personne qui est détruite, qui est dans le monde, vient et donne sa vie à Jésus et planté dans le royaume et a toute l'atmosphère pour pouvoir grandir et s'épanouir et porter du fruit pour le royaume. Ça, c'est ce que toute église locale devrait faire. L'église locale est un hôpital. L'église locale est un bateau de vie abondante. L'église locale est un bon restaurant, un excellent restaurant, spirituellement parlant. Donc, si vous voulez grandir dans la foi, il faut que vous soyez soumis à de bons enseignements, de la parole. Il faut aussi que vous ayez un bon entourage. C'est terrible de voir des chrétiens fréquenter d'autres chrétiens. Si votre entourage, observez les gens que vous fréquentez. Qui sont-ils? Des gens remplis de foi? Des gens qui aiment le Seigneur? Ou au contraire, des gens pas clairs? Des gens qui parlent négativement? Des gens qui n'arrêtent pas de critiquer les autres? Des gens qui réagissent bizarrement à toutes les situations? Qui fréquentes-tu et je te dirai qui tu es? Faites attention à vos fréquentations, frères et sœurs. Fréquentez des gens qui sont puissamment ancrés dans la parole, qui se nourrissent de bonnes choses, qui vivent de vraies expériences avec le Seigneur, pas des trucs bizarroïdes, qui reçoivent vraiment des paroles du Seigneur et non pas des trucs fabriqués ou des trucs qu'on se demande vraiment s'ils n'ont pas été influencés par des mauvais esprits. Mais faites attention à cela. Notre entourage nous influence toujours. Regarde qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Fais attention. Entoure-toi de chrétiens qui sont dynamiques dans la foi. Des chrétiens qui vraiment parlent le langage de la foi. Des chrétiens qui savent toucher le ciel. Des chrétiens qui voient vraiment de puissantes réponses à leurs prières. Et pas des gens qui sont négatifs. Je ne vous dis pas non plus de repousser les gens négatifs. Mais si ce sont ces gens gens-là qui sont tout le temps autour de vous et que vous partagez constamment des choses avec eux, ils vont vous influencer de la mauvaise façon. Vous allez vous retrouver dans des systèmes de pensée en vous disant, mais c'est bizarre, j'arrête pas de penser ça depuis un certain temps. Mais c'est normal. C'est normal parce que tu n'es pas stimulé dans ta foi. Alors maintenant, je sais bien qu'il y a des gens qui sont très excessifs. Il y a des chrétiens avec qui vous ne pouvez pas avoir une conversation autre que sur Matthieu 14, 18, 1 Corinthiens 2, 14, 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 4, etc. etc. C'est-à-dire, ils vous, la première chose qu'ils disent est seulement ils vous citent des versets bibliques. Il y a des gens, vous ne pouvez pas avoir d'autres discussions avec eux. Ça, c'est pas bon non plus. Parce que souvent, ces gens-là n'ont aucun bon sens dans la vie. Il y a un équilibre entre les deux. Soyons bien clairs. Parce qu'il y a des gens avec qui, je dirais, on ne peut rien d'autre partager que Bible, Bible et Bible. Et souvent, ces gens-là sont très solitaires. Et ils ne sont pas plus spirituels que les autres. Faites attention à ça. Des gens qui ne savent pas rigoler, par exemple. Oui, celui qui prophétise édifie l'église. La différence entre la simple prophétie et la prophétie qui contient un élément de révélation, et c'est que des discussions comme ça. Bon, l'aspect spirituel est excellent et il faut qu'on s'en nourrisse. Mais il y a l'excessivité. Après, c'est, les gens ne veulent plus fréquenter des inconvertis. Et là, c'est l'autre travers. Il y a un équilibre entre les deux. Vous entourez d'une atmosphère de foi. Vous n'êtes plus du monde, mais vous êtes dans le monde. Ne l'oubliez pas. Maintenant, il y a des fréquentations que vous devez limiter. Et il y a certains chrétiens, vous savez, des fois, il faut leur fermer la bouche. Ils vont ultra critiquer. Il faut leur dire, maintenant, tu te tais, ça ne m'intéresse pas. Et tu dis, moi, si tu continues comme ça, je ne te fréquente plus aussi proche. Ça ne vous bénira pas. Ça ne vous bénira pas. Si une personne vous raconte tout le temps les mêmes histoires et qu'elle vous demande tout le temps aussi de prier pour elle, il y a un moment tu dois dire, écoute, tu dois prendre tes responsabilités. Si la personne ne veut pas le faire, ne soyez pas trop proche de ce genre de personnes. Si vous ne fréquentez que des personnes comme ça, au bout d'un moment, ça va commencer à venir sur vous. Vous allez vivre dans une atmosphère de problèmes, de gens qui vous racontent toujours les mêmes histoires et qui finalement, je pense qu'ils cherchent plus un psychologue que quelqu'un qui peut les aider à réellement se repentir. Amen. Donc faisons attention. Si tu veux vivre avec une foi plus profonde, il faut que tu t'entoures de certaines choses. C'est pareil avec les choses du monde. Dieu ne nous dit pas de nous fermer au monde. Mais Dieu ne nous dit pas non plus, nous prévient de ne pas mettre constamment notre nez dans les choses du monde. Il faut être informé de ce qui se passe dans le monde. Maintenant, ne soyez pas passionné des moindres petits trucs qui se passent dans le monde. Parce que sinon, tu vas passer constamment, tu vas méditer constamment ces choses. Et ces informations-là vont commencer à t'envahir de plus en plus. Donc, il va falloir que tu fasses un exercice pour équilibrer ta vie. Entre le fait de t'entourer de bonnes personnes, de bien te nourrir de la parole, de lire des bons livres. Parfois, il y a des frères et sœurs qui me présentent des bouquins et me disent, pasteur, j'ai commencé à lire ce livre-là, j'ai lu 3 chapitres, je sens que je ne suis pas très à l'aise. Moi, j'ai même pas besoin de lire 3 chapitres, je lis juste la couverture, je regarde 2-3 trucs et je sais s'il faut lire ou faut pas lire. Ne vous nourrissez pas de choses où vous n'êtes pas bien sûr. Il y a des livres de sectes qui traînent. Des choses bizarres, de sorcellerie cachée qui traînent.
Où
on essaye de mélanger ça avec le christianisme. Le diable essaye d'infiltrer des choses dans les églises. Et nous devons être radical. Je vous ai montré plusieurs fois des livres qui ne sont pas justes, des auteurs qui ne sont pas bons. Pourquoi ? Parce que vous devez faire attention où vous vous nourrissez. De quoi vous vous nourrissez ? Donc il faut que tu te crées une certaine plateforme. Regarde dans quelle atmosphère tu vis déjà. Il faut se laisser influencer par Dieu. Passe du temps dans sa parole. Mais chez toi, aie une vie personnelle de louange et d'adoration. Passe un peu de temps tous les jours. Ne joue pas les super spirituels. Il y a des gens, ils veulent faire des super jeûnes de 5 jours. Prier toute la nuit. Commencer à faire des trucs super spirituels, alors qu'ils sont d'un niveau, je dirais, spirituel assez bas.
Non.
Commence par le commencement. Remets tes priorités en ordre. Passe 10 ou 15 minutes rien que tous les jours de qualité avec ton Seigneur. Tu prends un bon CD de louange et d'adoration bien loin. Tu répands ton cœur devant le Seigneur. Tu prends sa parole. Tu passes du temps dans sa parole. Rien 10 à 15 minutes. Tu loues, tu adores ton Dieu. Tu lui demandes certaines choses. Principalement des directions pour ta vie. De la sagesse. Tu pries aussi pour les autres. Prie pour les autres. Arrête de prier seulement pour moi. Oui, t'as besoin de prière pour toi. Mais pense aux autres. Pense aux autres. Prie pour les autres. Si tu vois des situations difficiles, si tu vois des gens qui doivent être sauvés, des gens qui doivent être guéris, prie pour les autres. Passe du temps à prier pour les autres. Les autres ont besoin de tes prières. Nous avons besoin d'être avec le Seigneur, d'avoir son conseil. Priez pour la sagesse. Priez pour l'inspiration. Priez pour que vraiment Dieu vous dirige. Commencez à créer une atmosphère de foi autour de vous. Prenez la parole, parlez la parole. Dites ce que vous êtes en Jésus-Christ. Prenez les versets du Nouveau Testament. Je suis une nouvelle créature. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Oh Seigneur, je te remercie pour ça, parce que tu habites en moi, Seigneur. Et tu te regardes dans ton miroir et tu dis, dans cet homme, Dieu habite. Et tu dis, cet homme ne peut pas échouer. Tu n'es pas un échec, tu es la tête. Aucune arme forgée contre toi ne pourra prospérer. Tu commences à parler ces choses. Fais ça 10 minutes, un quart d'heure le matin. Tu commences à créer une atmosphère de foi. Les choses vont commencer à changer, bouger. Plutôt que de dire que tu vas passer 3 heures ou 4 heures dans la prière, tu n'en es pas capable. Commence par le commencement. Commence à sensibiliser ton esprit. Et Dieu va commencer dans la journée à te montrer des choses. Tu vas être dans la prière. Et d'un seul coup, tu vas avoir un puissant sentiment dans ton esprit. Comme si quelqu'un te parle. Et te dit, il faut que tu ailles voir telle personne aujourd'hui, absolument. Il faut que tu fasses telle chose. Et tu obéis. Et tu réussis. Rappelez-vous, nous passons souvent à côté du surnaturel. Parce que nous cherchons le spectaculaire. Seigneur, si tu veux que je fasse ça, il y a tel frère à telle heure qui doit me téléphoner. Cher ami, prie comme ça. Et je te garantis, ta vie spirituelle n'ira pas loin.
Ce
n'est pas ça que Dieu te demande. Dieu te demande de te mettre en connexion avec lui. Et de faire attention à ton environnement. Ça, c'est un premier principe. Le deuxième principe, apprenez à construire sur la parole de Dieu. Et non sur les expériences des autres ou des expériences passées. Faites attention à cela. Apprenez à construire sur la parole. Les expériences et les témoignages, c'est merveilleux. C'est inspirant. Ça fait du bien d'entendre. Et beaucoup de chrétiens aiment bien entendre des témoignages. Mais les témoignages ne vous mettront pas dans une foi puissante. Les témoignages vous stimuleront. C'est très bien. Mais par contre, un des pièges des témoignages, je vais vous dire c'est quoi. Parfois, les pièges des témoignages, c'est qu'on essaye de s'identifier par rapport à ce qu'une personne a vécu ou ce que nous avons vécu dans le passé. Et on pense forcément que Dieu va agir de la même façon pour nous. Et parfois, cela nous pose des problèmes, frères et sœurs. Parce qu'à ce moment-là, tu es en train de mettre Dieu dans une petite boîte. Moi, je me souviens, quand je me suis converti, j'ai eu vraiment ce problème-là. Ceux qui m'ont amené au Seigneur, c'était des gens qui avaient fait une telle expérience avec Dieu que pendant 2 ans, j'ai vraiment douté de mon salut. Mais entre parenthèses, ils m'ont bien aidé aussi à douter de mon salut. Il y a des gens, parfois, vous savez, ils sont une bénédiction pour vous, mais après, ils ne sont plus. C'est pour ça, quand vous amenez quelqu'un au Seigneur, faites attention. Parce que rappelez-vous que cette personne a un certain attachement à vous. Qu'elle attend de vous un exemple. Qu'elle attend de vous que vous puissiez l'aider. Et parfois, quand vous recevez le Seigneur, bah, vous n'avez pas forcément la meilleure attitude, vous ne comprenez rien du tout. Et il faut vraiment avoir de la sagesse quand on entoure les nouveaux convertis. Vous savez, les nouveaux convertis ont besoin d'être bien entourés. Je veux vraiment vous exhorter à cela. Parce que les nouveaux convertis, ce sont des petits bébés. Et les petits bébés, ils ont vraiment besoin de soins. Quand tu amènes quelqu'un au Seigneur, ne pense pas que c'est bien, ton travail est terminé. Non, pas du tout. C'est là où tout commence. Il faut que tu t'occupes de lui et que tu fasses attention comment tu t'occupes. Et moi ces personnes qui m'ont amené au Seigneur, franchement, elles avaient fait une expérience très forte avec Dieu. Expérience de salut. Expérience du baptême du Saint-Esprit. Et moi, c'était pas mon cas. Moi, quand je me suis converti, il y a rien qui a tremblé. J'ai pas eu de vision. J'ai fait une expérience à un moment donné, allongé sur mon lit dans mon appartement. Expérience très simple. Mais je sais que ce jour-là, j'ai donné ma vie à Jésus. Mais quand j'entendais leur expérience, c'était une expérience fracassante. Celui qui m'a amené au Seigneur, c'était un frère qui vivait dans des trucs de sorcellerie. Il avait failli mourir plusieurs fois. Il était dans des trucs super bizarres avant. Et quand il a entendu l'évangile, pendant 3 jours, il s'est enfermé chez lui et il a pleuré sur ses péchés. Et moi, j'ai pas pleuré 3 jours sur mes péchés.
Vous
voyez, on a tendance à s'identifier à une expérience. Et franchement, ça me frustrait. Et je me débattais avec mes doutes parce que j'étais quelqu'un qui avait du mal avec la foi. Pendant des années, je raisonnais tout de A jusqu'à Z. Et j'arrivais pas à marcher dans la foi. Je savais même pas. Finalement, je savais même pas ce que c'était que la foi. Et pendant 2 ans comme ça, je me suis débattu parce que j'essayais de m'identifier à l'expérience d'un autre. C'était la même chose. Quand j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, j'ai reçu une syllabe. C'est pas que Dieu était radin. C'est que j'étais pas assez ouvert. Et alors, Eux, quand ils avaient reçu le baptême du Saint-Esprit, c'était le ciel qui était descendu sur la terre. Et ils s'étaient mis à parler en langue, et à parler en langue, et à parler en langue, et à parler en langue. Alors moi, j'avais entendu cette expérience-là. Et obligatoirement, ça me bloquait quelque part. Je me disais, est-ce que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit? Est-ce que... Vous voyez, quand on commence à s'appuyer sur les expériences des autres, on pense que Dieu va agir comme ça exactement pour nous. Non, Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est pas à nous. La Bible ne nous dit jamais Dieu va agir tout le temps de cette manière-là ou de cette manière. L'important, c'est le résultat. Ce que tu veux voir accomplir dans ta vie de la part du Seigneur. L'important, c'est pas comment lui, il va agir dans ta vie. Dieu peut utiliser différentes choses. Par exemple, pour la guérison divine, il y a plusieurs façons pour recevoir la guérison. On peut recevoir la guérison par la foi dans la parole. Tu médites la parole de Dieu, tu reçois, et tu reçois ta guérison. Tu es guéri. Il y a d'autres fois, d'un seul coup, il va y avoir une parole de connaissance. Il y a quelqu'un qui est guéri ici de tel problème. Tu es guéri. D'autres fois, il va y avoir une onction de guérison, c'est-à-dire quelqu'un qui a un ministère de guérison qui vient. Et vous êtes dans la salle, l'onction se répand, et vous êtes guéri. L'important, c'est quoi? La méthode? Ou le résultat? C'est le résultat, vous en convenez. Donc ça, il faut vraiment, si vous voulez grandir dans la foi,
hein,
l'important c'est de voir ce que vous voulez voir s'accomplir. L'important c'est de vous dégager de toute idée préconçue, parce que nous avons beaucoup d'idées préconçues. Souvent nous mettons Dieu dans une petite boîte. Donc nous avons tellement d'idées préconçues, nous disons non, Dieu va agir comme ça. Je vois souvent des chrétiens dire ça. Ouais, je sais, de toute façon Dieu va agir comme ça. Ils se trompent. Et ils ne voient pas ce que le Seigneur veut faire pour eux. Donc ne soyez pas comme cela. Tu lis un livre, tu as lu un merveilleux témoignage. Dieu n'agira pas forcément de la même façon pour toi. C'est pas la peine de reprendre la même prière. C'est même pas la peine de reprendre les mêmes versets. Mais appuie-toi sur la parole uniquement. Parce que quelqu'un a pu recevoir un verset d'une certaine façon, qu'il a interprété d'une certaine façon, qui a stimuler sa foi. Et toi, ce verset ne te parlera pas forcément directement, mais c'est un autre verset par lequel Dieu va te parler.
Ou
il va te dire certaines choses que tu dois faire. Donc faites attention, parce que souvent on a tendance à s'identifier soit aux expériences des autres, ou soit on a prié, on a vraiment vu Dieu agir dans certains domaines un jour, ou on a demandé à quelqu'un de prier pour nous, et on se retrouve dans un problème à peu près similaire. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on cherche à vivre la même expérience. Faites attention, ça c'est une erreur qu'on a tendance à faire. Vous ne pourrez pas grandir dans la foi si vous mettez Dieu dans une boîte en disant Dieu doit agir de cette façon-là obligatoirement pour ma situation. Si vous faites ça, je vous garantis, vous passerez à côté du meilleur de Dieu. Vous allez vous bloquer vous-même, et ça vous empêchera de recevoir ce que le Seigneur veut faire pour vous. Troisième principe, confiez-vous dans le Seigneur et non pas dans les hommes. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Je vais m'expliquer. Jérémie 17, 5 à 8. C'est une parole que le Seigneur nous donne, et il veut qu'on apprenne à lui faire confiance. Dieu veut qu'on apprenne à s'appuyer sur lui.
Non
pas sur les hommes. Aussi bon soit-il, même les plus grands serviteurs de Dieu. Il faut que vous appreniez à appuyer votre foi sur Dieu. Et au travers de cela, bien sûr, sur sa parole. Mais si vous appuyez votre foi sur les hommes, vous allez avoir des histoires et des problèmes.
Ça,
je tiens à vous le dire. Et je vais vous expliquer un certain nombre de principes qui sont vraiment fondamentaux à propos de ça. Dans Jérémie 17 au verset 5, il est dit « Maudit soit l'homme qui se confie dans un être humain, qui prend la chair pour appui et qui écarte son cœur de l'Éternel. Il est comme un génévrier, c'est-à-dire un misérable, dans le désert. Il ne voit pas arriver le bonheur. Il habite dans des lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui étend ses racines vers le courant. Il ne voit pas venir la chaleur et son feuillage reste verdoyant. Dans l'année de la sécheresse, il est sans inquiétude et il ne cesse de porter du fruit. »
Uku niko Uhoraho ageze ku murongo wa gatanu aravuma umuntu yishimira abantu akizigira inkomezi z'abari n'umubiri umutima wiwe ukava kuhoraho azoba nk'agasaka k'inkokore mu bugaragwa kandi ntazobona ibyiza bimuje ko ariko azoba ahagadutse ahantu ubwegeranye hubweranyange igihugu cy'umunyu kitabamwe abantu arahiriwe mugabo umuntu yizigira Uhoraho Uhoraho akaba ibyizigiro byiwe kuko azoba nk'igiti gitewe iruhande y'amazi ishorera imizi yacu iruhande y'uruzi kitumva izuba iyo ryatse ariko kikama itoto ntikizorinda kwiganyira mu mwaka w'uruzuba kandi ntikizoruhuka kwama.
Donc là la Bible nous prévient. Vous savez, les bébés spirituels sont très forts dans le domaine. Pour tester si vous êtes encore un bébé spirituel, posez-vous la question suivante. Quand j'ai un problème, est-ce que je suis tout le temps en train de chercher quelqu'un, un serviteur de Dieu? Et je ne dis pas que c'est mal de chercher un serviteur de Dieu pour la prière, loin de là, comprenez-moi bien. Mais est-ce que c'est votre premier réflexe? Est-ce que votre deuxième réflexe c'est de dire il faut que quelqu'un me donne une parole? Là vous êtes en train de vous appuyer sur la chair. Quand Dieu utilise des canaux et en particulier les serviteurs de Dieu, comprenez-moi bien. Mais le serviteur de Dieu est juste un instrument. Il y a des gens qui pensent que si telle ou telle personne va prier pour eux, alors tous leurs problèmes vont partir. Ça, c'est un mensonge. C'est complètement faux. C'est pas parce que telle ou telle personne va prier pour vous que vos problèmes vont partir. Ou alors peut-être qu'ils partiront pendant un certain temps, mais si vous changez pas, ils reviendront au galop. Pire. Et on voit bien des gens comme cela qui vont, qui courent de serviteur de Dieu en serviteur de Dieu, qui cherchent quelqu'un qui peut prier pour eux, qui cherchent une parole. Ils veulent absolument une parole parce que sans parole, Dieu ne pourra jamais les exaucer. Donc ils courent à droite, ils courent à gauche. Et on les voit, ces chrétiens, ils vont un coup à gauche, un coup à droite. Ce sont des gens instables. Des fois, des gens qui sont braves, qui sont gentils, mais qui ne comprennent pas comment grandir dans la foi. Si tu cours d'un côté, si tu cours de l'autre côté, et dites-moi, comprenez-moi bien, ce n'est pas mauvais, au contraire, même c'est bon d'avoir certains prédicateurs qu'on aime bien, qui nous ont largement bénis. Mais ce qu'il faut toujours se rappeler, c'est que le prédicateur sans l'onction, le prédicateur est un instrument. C'est Dieu qui agit. C'est pas l'homme qui agit. Des gens comme Bénin vous diront, moi je suis même pas capable de guérir une mouche. Parce qu'il sait que par lui-même, il n'a aucune puissance. Il connaît très bien le verset qui dit, de nous-mêmes, on ne peut rien faire. je sais qu'il y en a beaucoup qui ont prétexté ça pour être au chômage.
Mais
ça n'a rien à voir avec ça. Jésus parlait de choses spirituelles ici. Il parlait des choses, des fruits spirituels. Nous ne pouvons pas porter de fruits spirituels sans le Seigneur. Et il y a certains prédicateurs qui sont obligés de se protéger à cause de ça. Sinon, ils sont complètement envahis. Il y a même des prédicateurs qui sont morts prématurément à cause de foules qui constamment les dérangeaient jour et nuit. Qui étaient trop sollicités. Parce que les gens avaient les yeux sur eux. Et uniquement sur eux. N'est pas les yeux sur une personne humaine. L'homme est faillible. L'homme est un instrument. Il peut être merveilleusement utilisé. Il reste un homme. Apprends à te confier dans le Seigneur. Ne cherche pas d'autre personne que le Seigneur. Et quand tu vas faire ça, Dieu, à un certain nombre de fois, à son initiative, t'amènera la bonne personne pour prier pour ta situation.
Vous
voyez la différence? Quand tu commences à chercher l'homme, tu vas trouver la chair. Si tu cherches l'homme, peut-être que quelqu'un priera pour toi. Il
n'y
aura pas le résultat. Ou la personne va... Le diable va commencer à mettre des choses. Et souvent, ça se passe chez les chrétiens. Je tiens à dire. Quand les gens ont les yeux sur les hommes, il y a beaucoup de révélations qui sortent. Et beaucoup de gens qui sont menés là où ils ne devraient jamais être menés. Donc faites attention à cela. Par contre, quand tu cherches sincèrement le Seigneur, tu verras que Dieu va t'amener la bonne personne. Si Dieu voit que tu as besoin d'un soutien dans ta foi, il t'amènera la bonne personne. Le serviteur de Dieu qu'il faut, le frère ou la sœur qu'il faut, il parlera à cette personne et hop, vous allez pouvoir vous associer et aller plus haut ensemble. Et là, s'il y a une parole qui est donnée, ça sera le Saint-Esprit qui va parler. Mais t'es pas là, toi, en train de chercher chez un homme. Donne-moi une parole. Prie pour moi obligatoirement parce que je sais que si tu pries pour moi, alors les choses vont changer. Si tu ne veux pas prendre tes responsabilités, rien ne changera. Et tu seras frustré quelque part. Et donc, tu as besoin de toi-même comprendre que d'abord, tu dois te confier dans le Seigneur. Ne te confie pas dans l'homme. Si tu te confies dans l'homme, tu vas avoir des problèmes. Tu vas être dans des tribulations de la chair, je te garantis. Parce que je sais que parfois, il faut le dire, on voit dans certains mouvements, c'est à la limite d'avoir, vous savez, à la tête de mouvements chrétiens, des fois, c'est la limite, dans certains mouvements, on a presque l'impression de voir des gourous. Non, le serviteur de Dieu a sa place. Mais le serviteur de Dieu n'est pas Dieu. Le serviteur de Dieu est un instrument. Cherche le Seigneur et Dieu amènera le serviteur de Dieu qui te faut. Il amènera la parole qu'il te faut. Si tu en as besoin de la parole. Parce que parfois tu n'as pas besoin d'une parole spécifique, tu as déjà la parole de Dieu. Mais ça, c'est Dieu qui choisira. Mais tu te confies dans ton Seigneur. Et là, tu vas voir que tu vas grandir dans la foi. Et tu vas voir les choses les plus extraordinaires. Dieu va t'amener les bonnes personnes s'il y a besoin de bonnes personnes. Sinon, toi-même, tu recevras ta réponse. La quatrième chose, c'est l'obéissance. L'obéissance. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Et nous allons regarder un texte dans 1 Jean 3:22. Il est dit, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et nous faisons ce qui lui est agréable. Ça, c'est quelque chose qui est absolument fondamental si vous voulez grandir dans la foi. Si vous ne faites pas les choses qui sont agréables à Dieu, qui plaisent à Dieu, si vous n'êtes pas prêt à obéir à Dieu, qu'est-ce que c'est que l'obéissance ? Il y a d'abord l'obéissance à la parole de Dieu, la parole écrite de Dieu.
Ça,
c'est quelque chose qui est fondamental. Beaucoup de chrétiens veulent voir Dieu intervenir dans leur vie, mais ils refusent d'obéir. Si tu refuses d'obéir, tu ne peux pas voir la bénédiction de Dieu. Si tu refuses d'obéir à la parole, comment veux-tu que Dieu puisse déverser sa grâce, sa puissance et sa bénédiction? Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont bloqués par ça. Ils prient, ils jeûnent, ils font toutes sortes de choses, mais ils n'ont pas un cœur obéissant. Grandir dans la foi t'imposera d'obéir. Pas de discuter avec Dieu, mais d'obéir. Dieu dit, il faut faire ça. Tu le fais. Pourquoi, Seigneur? Non, tu obéis. Tu commences à discuter avec Dieu.
Un.
Ça veut dire que tu es rebelle. Si tu es rebelle, tu ne verras jamais la bénédiction de Dieu. Tu obéis au Seigneur. Tu marches dans l'obéissance. Il y a des moments où tu vas prier et le Saint-Esprit va te montrer de faire certaines choses. Obéis à cette petite voix. Obéis à cette petite voix. Tu verras ta bénédiction là. Tu vas commencer à marcher dans la foi. Pierre l'a fait. Quand Pierre a marché sur l'eau, il a dit au Seigneur, ordonne que j'aille vers toi. Et Jésus lui a dit, viens. Pierre n'a pas discuté. Il a dit, non Seigneur, crée une barque là où je puisse monter dedans. Crée ça maintenant, Seigneur, pour que je puisse monter dedans une autre barque. Non, Seigneur, tu vois, ça va s'enfoncer. Seigneur, tu vois, il y a la tempête. Non, Pierre est sorti de la barque, il a obéi.
Et
il a marché dans le surnaturel. Quand le Saint-Esprit met des choses en vous, frères et sœurs, obéissez. Obéissez. Et parfois, vous savez, il n'y a pas besoin de dire, je priais, le Seigneur m'a montré que c'est pour ça que je viens te dire ceci ou cela. Non, soyez un peu moins spirituel.
Vous
savez, il y a des choses qui peuvent être dites beaucoup plus simplement et faites très simplement. Quand le Seigneur te montre de faire quelque chose,
tu
n'as pas besoin d'enrober cela avec un joli papier cadeau en disant, vraiment, j'étais en plein jeûne et prière et alors que je chantais tel chant, j'ai senti un vent venir de la fenêtre.
Oui,
il y a des gens qui se créent leur propre fable. Mais non, sois simple. Tu sens dans ton cœur qu'il faut faire ça, tu fais. Et tu vas voir les choses les plus extraordinaires. Rappelez-vous, nous passons souvent à côté du surnaturel parce que nous cherchons le spectaculaire. Tu vas voir, si le Seigneur te dit, va bénir telle personne. Tu dis rien. Tu vas tranquillement. Et tu n'as pas besoin de le voir. Bonjour Steve. Oh Steve, tu sais, je priais ce matin, Steve. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit, Steve, oh, qu'il fallait que je te donne ça, Steve. Tiens, mon frère. Tiens, je te donne ça, mon frère. Oh, nous allons prier. Oh Seigneur, j'ai obéi à ta voix, Seigneur. Seigneur, tu m'as dit, Seigneur, que je devais donner ça à mon frère Steve. Tu vois, Seigneur, aujourd'hui, je viens le voir, il est devant moi. Mais arrête. Épargne-nous cela. Fais les choses simplement. Même par personne interposée parfois. Fais les choses discrètement.
Tu
n'as pas besoin de te montrer devant tout le monde. Et après dire au groupe de prière, j'ai un témoignage. Finalement, c'est qui a la gloire là-dedans? Le Seigneur ou c'est toi? Apprenons à être simples. Poser des actes d'obéissance dans les choses les plus simples. Vous savez, des fois, il y a des gens qui font des dons à l'église. Et alors, ils donnent toute une lettre avec en expliquant comment le Seigneur leur a parlé, etc., 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 etc. Soyez simples, frères et sœurs. L'important, c'est qui? C'est le Seigneur. Tout ce que tu fais, fais-le pour le Seigneur. Non pas pour les hommes. Non pas pour une propre récompense. Non pas pour une propre... Fais les choses simples. Mais apprends à obéir. Si tu apprends à obéir simplement. Et voilà, j'ai eu à cœur ça. Le Seigneur m'a vraiment montré qu'il fallait que je fasse ça. Point très basse. Il n'y a pas besoin de faire un grand discours et une prédication et un témoignage à
l'église.
Il n'y a pas besoin. Tu verras que le Seigneur saura ce que tu as fait. Et Dieu va toucher ta situation. Parce que tu as obéi. Souvent, nous n'avons pas ce que nous demandons. Parce que nous ne plaisons pas à Dieu. Nous ne faisons pas ce que le Seigneur nous a mis dans notre cœur. Nous n'obéissons pas aux impulsions du Saint-Esprit. Et la plupart du temps, le Saint-Esprit ne te parlera pas avec une voix dans ton cœur. La plupart du temps, tu vas être en train de prier et tu vas sentir profondément qu'il va falloir que tu fasses quelque chose. Tu vas sentir qu'il y a une impulsion dans ton cœur, dans ton esprit qui est là. Obéis à cette impulsion d'une façon très simple. Il y a des fois, le Saint-Esprit te parlera beaucoup plus clairement dans ton cœur par une petite voix. Mais c'est déjà plus rare. La majorité du temps, tu vas être en train de prier, tu vas sentir profondément quelque chose. Il faut que tu le fasses. Tu dis, c'est bizarre, je suis juste en train de prier.
Tu
n'étais pas en train de penser à la situation. Vous savez, il y a des gens qui se fabriquent tout un tas de trucs. On ne parle pas de ces gens-là. Parce qu'ils veulent manipuler Dieu.
Non.
Obéis simplement à la base. Il y a beaucoup de choses, tu ne sais pas pourquoi tu vas obéir. Que le Seigneur te demande ça. Fais-le, ne discute pas. Ça, c'est vraiment une clé importante. Cinquième pratique. Cinquième chose que nous devons pratiquer, c'est marcher dans l'humilité. Et là aussi, frères et sœurs, il faut faire très attention. Quand nous faisons des expériences avec Dieu, il faut apprendre à lui donner toute la gloire.
Et
souvent, les gens diront « Amen ». Oui, mon frère. Oui, ma sœur. Mais fais attention. Quand tu fais une expérience avec le Seigneur, quand tu en parles, est-ce que vraiment, quand tu dis « c'est le Seigneur qui a fait ça » et derrière ta bouche, il y a un petit sourire qui dit « oui, mais j'y ai été pour quelque chose
hein. »
Il y a deux personnes qui nous connaissent très bien. Vous savez qui sont ces deux personnes qui nous connaissent très bien? Il y a d'abord Dieu et lui c'est parfaitement, je dirais. Mais toi aussi tu te connais très bien. Tu sais très bien quand tu dis quelque chose, dans quelle attitude tu le dis. Si c'est vraiment la gloire au Seigneur, si c'est le Seigneur et moi, ou si c'est moi et le Seigneur. Quand tu dis quelque chose, fais attention. Si tu veux grandir dans la foi, il va falloir que tu te revêtes d'une vraie humilité. Pas d'une fausse humilité. Oui, c'est le Seigneur. Oui, c'est Dieu. Ah, c'est le Seigneur. Et à l'intérieur, tu es bouffi d'orgueil. Tu as un espèce de sourire finalement où tu n'attends qu'une chose, c'est que les gens te disent « Ah, c'est bien mon frère.
Ah, »
Meurs à ça. Si tu vis comme ça, Dieu ne te confiera pas de grandes choses parce que tu n'es pas fidèle avec les petites choses qu'il est en train de te confier. Ta foi ne pourra pas grandir. Ta foi sera complètement limitée. Parce que Dieu voit que tu prends une tranche de gloire. Et ça, il faut vraiment mourir à ça. C'est un piège diabolique terrible. Tu commences à faire des choses, tu commences à marcher dans la foi, le Seigneur commence à puissamment agir dans ta vie.
Et
vous savez, quand Dieu agit dans notre vie, au petit coin là, au petit tournant, le diable s'y trouve quasiment toujours. Parce qu'il n'a pas envie. Il commence à voir que tu découvres de puissants secrets du royaume de Dieu. Donc tu vas t'attendre au tournant là-bas. Juste là où tu ne vois pas, tu commences à tourner, tu dis et là, viens ici, toi. Tu es sûr que c'est le Seigneur tout seul? Tu es quand même quelqu'un de bien. Tu vois, toi, la sœur là à côté, elle avait prié pour la même chose que toi. Mais qui a eu le poste? Qui a le gros salaire? Qui roule en belle voiture? Mais c'est toi! Et d'un seul coup, tu es passé à la station service et ta tête a triplé de volume. Mais c'est le Seigneur. Faites attention à ça. Parce que ça, c'est une voix subtile du serpent. Voix subtile du serpent. Faites très attention à ça. Quand ce genre de choses vient dans vos oreilles, crucifiez-les. Crucifie ce genre de truc. Si tu ne fais pas ça, fais attention, parce que petit à petit ça va s'implanter en toi. Et au moment où il y aura des grandes pressions, c'est là où ton orgueil va ressortir et tu vas tomber. Tu vas être une belle étoile filante qu'on aura vu briller. Tu auras été un beau témoignage. Et après, tu seras complètement tombé. On n'a pas le temps de voir ce verset, mais dans Nombre 22, Dieu a utilisé un âne pour parler. Alors si Dieu t'a utilisé pour parler, ne sois pas... Ah oui, c'est vrai, Steve a témoigné, mais... C'est moi qui ai donné la prophétie. Hein. C'est moi qui lui avais donné cette parole.
Hein.
Vous voyez ce que je veux dire? Dieu a utilisé un âne pour parler. Pour arrêter un prophète qui était dans sa folie. Et pour l'empêcher de maudire le peuple d'Israël. Un homme qui commençait à se laisser corrompre. Et Dieu a utilisé un âne. Dieu peut utiliser n'importe qui de disponible. Donc si tu as été utilisé par Dieu, si Dieu a fait des choses extraordinaires dans ta vie, donne-lui toute la gloire et fais tout ce que tu peux pour le remercier. Fais ça. Tu te préserveras de bien des tourments. Parce que l'orgueil précède la chute. Tu ne pourras jamais grandir dans la foi. Dieu ne pourra jamais te confier de grandes choses. Si tu n'as pas un cœur rempli d'humilité. Dernière chose. Vous devez avoir aussi une sainte hardiesse. Il faut que vous compreniez une chose. Quand vous grandissez dans la foi, vous devenez indestructible. Il n'y a plus rien qui peut vous faire peur. Quelqu'un qui est fort dans la foi. Est-ce que Jésus avait peur de la persécution des pharisiens? Non. Est-ce que Jésus avait peur des tempêtes? Non. Est-ce que Jésus avait peur d'un démoniaque qui criait dans tous les sens devant lui? Non. Est-ce que Jésus avait peur de la mort? Non. Jésus avait peur de rien. Et quand tu grandis dans la foi, tu commences à adopter une position où aucune circonstance ne peut te faire paniquer. Parce que tu connais tellement bien les principes de Dieu, les principes du royaume de Dieu, les principes de la parole de Dieu, que lorsqu'une adversité arrive contre toi, qu'est-ce que peut être une adversité? Une mauvaise circonstance qui arrive. Parfois, ça arrive.
On
ne les attend pas. En général, les mauvaises circonstances ne nous attendent pas. Elles sont là, puis d'un coup, elles arrivent sur nous. Mauvaises circonstances économiques. Mauvaises circonstances, je ne sais pas, de maladie. De problèmes, quels qu'ils soient, qu'on n'attendait pas du tout. Ça, ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Rappelez-vous la parabole que Jésus a donnée sur la maison qui était bâtie sur le sable ou sur le roc. Maintenant, est-ce que les circonstances doivent te faire peur? Ou est-ce que c'est toi qui dois maîtriser les circonstances? C'est toi qui dois apprendre à maîtriser les circonstances. Quelqu'un qui grandit dans la foi, il apprend de plus en plus à dominer sur ses circonstances. Quand il y a des plans humains qui sont faits, la personne ne panique pas. Ne prie pas tout de suite, là, tout de suite dans la prière. Seigneur. Ça, c'est des gens qui font des prières d'auto-rassurement. Ils s'auto-rassurent eux-mêmes. En fait, ils ne prient pas. Ils sont en train de s'auto-rassurer eux-mêmes. Il y a un problème, alors ils couvrent avec leur prière.
Ils disent,
c'est bon, il n'y a plus le problème. J'ai prié. En fait, ce sont des gens qui s'auto-rassurent, ce sont des gens qui ont une peur panique, qui courent dans la prière.
Il ne
faut jamais faire ça. Ça, c'est des gens qui n'ont pas grandi dans la foi. Ce sont des gens qui sont incapables de laisser Dieu dominer les circonstances au travers d'eux. Ce sont des gens qui n'ont pas grandi. Si vous en êtes encore là, vous comprenez ce que je veux dire. Il va falloir que vous grandissiez. Et puis, bien sûr, il y a des gens qui nous font des sales coups. Mais c'est pas grave, quand tu as grandi dans la foi, tu sais que quand quelqu'un va te faire un sale coup, tu sais que le Seigneur a préparé meilleur. Moi, de temps en temps, j'aime bien quand des gens nous font des sales coups. Enfin, j'aime bien, c'est jamais agréable. Mais maintenant, je souris de plus en plus devant ça. S'il y a des gens qui essayent de me critiquer, moi, ça ne m'intéresse pas d'entendre les critiques. Je m'amuse parce que je sais ce que je dois faire. Je sais exactement comment répondre à ce genre de truc. S'il y a des gens qui essayent de faire des mauvais coups à droite, à gauche, je ne vais pas me laisser bouffer la vie sur ça. Ça ne m'intéresse pas d'aller perdre mon temps à me bagarrer avec des gens. Ce qui m'intéresse, c'est de faire l'œuvre de Dieu. Et il
n'y
a personne qui pourra m'arrêter dans ça. Parce que je suis fou de faire l'œuvre de Dieu, dans le sens où c'est devenu une obsession pour moi. Il n'y a personne qui pourra m'empêcher de réaliser la vision que Dieu a mise dans mon cœur. Et personne ne pourra faire quoi que ce soit. Et réussir à faire quoi que ce soit. Ça serait de la folie. Ça serait de la folie. Parce que Dieu m'a donné aujourd'hui une telle dimension de foi qu'aucune arme forgée contre moi ne pourra prospérer. Parce que celui qui pourrait toucher à ma personne touche à l'onction qui est sur moi. Touche à l'onction qu'il y a sur moi. Et c'est la même chose qui doit se passer pour vous, frères et sœurs. Vous ne devez rien craindre des pièges des hommes. Mais vous devez comprendre une chose, c'est que celui qui touche à vous, je parle des gens qui marchent avec Dieu, ils sont en train de toucher à celui qui est en vous. Ils
ne
s'attaquent pas à vous. Ils sont en train de s'attaquer à celui qui est en vous. Celui qui s'attaque à Dieu, malheur à lui. Par contre, c'est là où tu dois réagir. Quand tu grandis dans la foi. Et quand le diable vient de faire des sales coups. Malheur à lui. Yo. Il faut lui dire simplement. Satan t'a touché à ça. Je te garantis, tu as osé toucher à ça. Ça va te coûter cher. Quand tu es dans une telle dimension, c'est que tu as grandi dans la foi. Tant que tu es en train de dire, oh, le matin, je mets le sang de Jésus sur le toit de ma maison. Les clés de ma voiture, je mets le sang de Jésus sur ma voiture pour pas qu'on me la vole. Je mets le sang de Jésus sur mon stylo. Pourquoi vous faites ça?
C'est
parce que vous avez la trouille. Ça peut dire que vous n'avez pas grandi dans la foi. Ça s'appelle la superstition. Je lis tous les démons que je vais rencontrer dans la journée. C'est minable de faire ça. C'est petit de faire ça. C'est des gens qui ne comprennent rien. L'ennemi est sous tes pieds.
Tu as
simplement besoin de le laisser là.
Oh,
il essaiera de montrer sa tête de temps en temps et faire il tapera sur ton toit comme ça.
Et
tu seras dans ton lit, tu feras « Seigneur Jésus, viens me protéger !» Ça, c'est des gens qui n'ont rien compris. Tu dois apprendre à grandir dans la foi. Tu es là pour dominer dans tes circonstances. Tu es là pour quand des gens font des plans contre toi. Tu domines et tu es plus que vainqueur. Vous avez vu comment Joseph a dominé les plans de ses frères. Joseph avait un appel extraordinaire. Et il a dominé ses circonstances. Tous les plans pourris. Les plans de la femme de Potiphar. Partout où il est passé, on lui a fait des sales coups. Mais Joseph, il connaissait le secret. Il savait que Dieu avait le meilleur et qu'il allait arriver dans sa destinée. Joseph était un homme de foi. Il voyait le résultat. Il ne voyait pas les circonstances. Il ne s'apitoyait pas sur son sort, sur les circonstances. Si tu veux grandir, il va falloir que tu réagisses correctement. Que tu saches comment faire. Que ce soir, avec les mauvaises circonstances, que ce soir, avec les plans parfois qu'on veut faire contre toi, que ce soit contre les choses sataniques qui viendront contre toi. C'est alors, mon frère, ma sœur, que tu grandiras dans la foi et que tu pourras triompher. On va se lever et nous allons prier ensemble.
Alléluia. Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.